Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de RDWA Déborah Gazi de l'association Vivre à domicile, Martine Chazel du Clic DIWA et Harold David du TDD qui se sont associés dans le cadre de la semaine bleue, qu'on pourrait appeler le mois bleu d'ailleurs, car le TDD a souhaité élargir sa démarche et notamment que des événements liés aux rencontres intergénérationnelles se passent aussi au théâtre, afin que les seniors puissent aussi profiter de propositions culturelles. Depuis 2006, le département de la Drôme porte la semaine consacrée aux seniors, et dans ce cadre, le CLIC, le TDD et Vivre à domicile se sont associés donc pour proposer du culturel aux seniors. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Alors on pourrait faire un petit peu la genèse de cette semaine bleue avant de passer au programme de ce qui va se passer au théâtre, et d'ailleurs dans d'autres lieux, je crois que j'ai entendu parler de l'hôpital et d'autres villages.
Oui, alors merci de me donner la parole. Donc le CLIC est garant de la politique départementale donc en direction des seniors. Et à ce titre-là, on est donc le CLIC et les CLIC de la Drôme préparent tout au cours de l'année, à partir de janvier, toute une programmation avec les partenaires en partenariat sur les territoires. Donc en l'occurrence sur le DIWA, il y a un groupe projet qui existe, qui a travaillé de janvier à juin, à raison de 4 réunions sur tous ces mois, pour préparer le mois bleu. Donc effectivement, nous, sur Die et ses villages, le mois bleu a démarré déjà le 5 octobre par un film au Pestel, où il y a eu une centaine de personnes. Et jeudi dernier, le 8 octobre, sur une journée Bien-être et bien vieillir, corps de seigneur et alors, où il a été présenté un certain nombre d'ateliers pilotés et encadrés par des acteurs DIWA. Donc ces deux journées se continuent par d'autres journées dans les villages. Alors je tiens à dire que toutes ces journées, quelles que soient les thématiques, ont été préparées vraiment par les acteurs eux-mêmes et peuvent exister aussi grâce à l'investissement, certes des porteurs que sont le théâtre, l'association Vivre à domicile et le CLIC, mais surtout aussi par les habitants eux-mêmes et notamment les élus de la commission gérontologique qui se sont engagés dans cette aventure, et puis beaucoup les clubs. Voilà, donc dans toutes les manifestations, ces acteurs-là locaux vont aussi accueillir et porter les projets. Alors, en dehors de l'action culturelle qui nous rassemble particulièrement aujourd'hui, il y a d'autres actions autour du corps, notamment la réflexologie qui est pilotée par Philippe Lamy, réflexologue, qui va avoir lieu dans plusieurs villages, entre autres à Lucan-Diwa et à Minglon. On a eu hier un film sur l'amour, la sexualité, le vieillissement, parlons-en, à Luz-la-Croix-Haute. On va avoir également des animations autour des signes, à l'appui des mots, grâce à une formatrice en communication gestuelle et signée, des ateliers intergénérationnels sur la communication signée par l'association Signé Marmot avec Sylvaine Moplot. On a également des activités sur l'équilibre de l'esprit et du corps pour un bien-être en harmonie. Et puis, on a du yoga sur chaise. Voilà, ce sont des ateliers qui découlent de la journée du 8 et qui vont avoir lieu dans les villages. Alors, voilà, si ça intéresse, je peux aussi parler des villages qui ont été porteurs, hein, au même titre qu'ils sont porteurs aussi des lectures musicales itinérantes dont on va parler. Mais tout au cours du mois va se dérouler beaucoup d'animations dans les villages.
Donc il y a eu, comme l'année dernière où RDWA était passé justement pour faire un reportage, une journée où tous ces acteurs ont été rassemblés, où les seniors ont pu échanger entre eux et les acteurs.
Oui, exactement. Donc c'était la semaine dernière, le 8 octobre au Martouré. Il y a eu à peu près de plus de 250 personnes, visiteurs. Et ça a été une journée très festive et conviviale où les personnes ont pu se re-rencontrer, mais aussi participer à tous les ateliers qui ont été offerts. Alors, je les répète, hein, c'est la réflexologie plantaire, un atelier avec réflexologie plantaire avec Philippe Lamy, corps et mouvement et bien bien-être avec la compagnie des opposés, des soins socio-esthétiques avec la socio-esthéticienne du centre hospitalier de Die. On a eu aussi avec une psychomotricienne de l'association Saint-Belle-Vie des ateliers de relaxation de psychomotricité. On a eu aussi des entretiens, un atelier sur l'entretien du mouvement et de la souplesse des poignets avec Madame Lagarde, animatrice de gym volontaire. On a eu aussi de l'écomobilité avec l'association Drôme Olive et un atelier remise en selle. On a eu aussi un atelier prévention des chutes avec l'association Vivre à domicile qui s'est associée avec le CALD. On a eu des ateliers yoga sur chaise avec l'association Surya. On a eu également La Source qui est une coopérative de thérapeutes au naturel qui sont intervenus tout au cours de la journée et l'atelier langue des signes. Voilà. Donc cette journée a été animée cette année par Pauline et ses cartons avec ses chansons et son orgue de barbarie et une compagnie de clowns, la compagnie Taka, qui nous ont beaucoup amusés tout au cours de la journée. Et cette année également, on avait les élèves de la maison familiale de Châteauneuf-sur-Isère. Voilà, cette journée a été conviviale et a introduit toutes les autres manifestations et les gens pouvaient s'inscrire. Alors j'ai oublié une chose qui était importante. C'est une conférence qui a lieu le matin, Bien dormir un rêve, des caisses de retraite. Et à la suite de cette conférence, la sophrologue qui est intervenue a proposé un atelier, donc sommeil, pour mieux dormir, de 18 personnes qui commence demain à la communauté de communes, dans la salle de premier étage de la communauté de communes. Il y aura 5 ateliers au cours entre octobre et novembre. Voilà, déjà en après-midi. Donc, cette journée a vraiment introduit toutes les autres. Et au cours de cette journée, les personnes étaient invitées à s'inscrire dans les différents ateliers dans les villages. Et notamment, bien évidemment, le théâtre était présent et a présenté les lectures musicales et toute la programmation de lectures musicales. Voilà, donc en espérant maintenant que les personnes qui sont engagées dans les villages à accueillir puissent être disponibles et aussi accueillent le mieux possible. Et puis, bon, que l'association Vivre à domicile aussi puisse drainer beaucoup de personnes afin que cette qualité de prestation puisse bénéficier au plus grand nombre. Alors, la semaine, ce mois bleu, se terminera le dimanche 22 novembre, donc on va bien au-delà du mois d'octobre, par un concert de la chorale La Tarentelle, ce sera de la musique nordique, qui aura lieu là aussi au théâtre. Et qui est pilotée par l'association des Amis des Arts. Et c'est une manière de clôturer ce mois bleu. Et là, pour le coup, il y aura aussi organisé et aussi cofinancé par le CLIC pour aller chercher les gens dans les villages, puisqu'il y a beaucoup de kilomètres à réaliser pour ceux qui sont les plus éloignés. Des transports pour que les gens puissent venir au théâtre. Et là aussi, ça corrobore la même envie et volonté voilà, pour les uns et les autres, et notamment du théâtre et de cette association, et notamment aussi du CLIC, d'ouvrir le théâtre et la culture à ceux qui en sont le plus éloignés.
Je suppose que vos actions ne se limitent pas quand même au mois bleu. Hein. Peut-être cette problématique dans ce pays rural et montagneux d'accompagner les seniors à sortir de chez eux pour profiter d'offres culturelles est une problématique que vous avez à faire tous les jours. Déborah Gazi, donc si j'ai bien compris, vous allez permettre à certaines personnes qui sont éloignées de Die de venir profiter des offres que fait le théâtre de Die.
Alors nous sommes une association, donc l'association Vivre à domicile, qui est née de la fusion entre l'association dioise d'entraide sociale, appelée couramment ADES, et l'association d'aide à domicile 12 sur 6. Donc nous accompagnons plus de 550 bénéficiaires répartis sur le territoire de Cray à La Motte, en passant par Luc Châtillon et Die. Et donc dans le cadre de nos missions, nous avons évidemment l'entretien courant du logement, les soins à la personne, mais également l'accompagnement à la vie sociale. Nous nous sommes partenaires de la manifestation sur la lecture musicale itinérante parce que nous trouvions intéressant de pouvoir permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires, et notamment ceux qui souffrent le plus de l'isolement ou qui résident dans des zones très rurales et ne peuvent pas forcément se déplacer, Donc nous les avons déjà informés via la communication interne des manifestations qui se déroulaient près de chez eux. Et nous allons également leur proposer un transport réalisé par des bénévoles de notre association qui leur permettront de se rendre à la lecture musicale itinérante et de profiter de ce moment de fête hein, intergénérationnel, de maintenir le lien social avec d'autres personnes, puisqu'on a quand même énormément de bénéficiaires qui vivent, qui sont seuls, qui n'ont pas de visite et qui ne peuvent pas forcément se déplacer.
Vous avez une idée de qui pourrait être intéressé, de combien de personnes ont manifesté leur envie de venir assister à ces lectures musicales et poétiques ?
Alors, pour le moment, donc l'information se fait déjà depuis quelques temps. On a eu des retours, évidemment, de bénéficiaires, de salariés aussi. On est en train d'affiner, entre guillemets, la liste des gens qui se rendront aux manifestations, puisque en fonction des dates, des heures, aussi des pathologies des bénéficiaires, hein, c'est plus ou moins possible. Donc, on adapte. Pour le moment, on n'a pas de chiffres. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura une idée beaucoup plus fine du nombre de bénéficiaires que l'on va en tout cas transporter. Voilà.
On a par ailleurs 1800 lettres qui ont été envoyées par les caisses de retraite à leurs bénéficiaires sur le DIWA. Et nous, le département, on a envoyé plus de 8000 invitations.
Si tous les bénéficiaires de l'APA ne font pas appel à l'ADES, on a également beaucoup de bénéficiaires qui ne sont pas sur des prises en charge APA. C'est vrai que les prises en charge APA représentent à peu près 80% de nos prises en charge. Il reste toujours 20% autres. Et c'est quand même intéressant de pouvoir les proposer ce service, y compris aux bénéficiaires qui n'ont pas l'APA. Évidemment, nous organisons le transport des bénéficiaires les plus isolés qui n'ont pas de moyens de locomotion. Mais l'information également qu'on a faite va également permettre à des bénéficiaires qui résident proches des lieux sur lesquels vont se dérouler les manifestations, de s'y rendre eux-mêmes par leurs propres moyens, puisqu'il me semble que, je ne sais plus si c'est Luc ou Châtillon, mais on a énormément de bénéficiaires qui résident à proximité, et auquel cas, évidemment, il n'y a pas forcément lieu d'organiser le transport. L'information sur la date et l'heure de la manifestation
suffit. Oui, circule pour le tout public, parce que ce qui est important vraiment de souligner, c'est que ces propositions artistiques de lecture musicale, pour en parler un peu, dire de quoi il s'agit, sont ouvertes à tous. Encore une fois, j'insiste sur le fait que nous, Théâtre 2D, on a profité de cette dynamique qui est portée par le Mois Bleu et le CLIC, qui du coup donne une visibilité plus importante et permet de fédérer justement différents acteurs et de permettre de toucher des personnes que nous, on n'est pas en capacité, théâtre, de toucher en direct, je veux dire tous les bénéficiaires de vivre à domicile ou toutes les personnes qui sont répertoriées par le CLIC, qui bénéficient de la PAP, etc. Nous, c'est pas notre cœur de métier que de connaître ces publics-là, donc on a besoin de travailler en partenariat avec des structures comme le CLIC et Vivre à domicile pour pouvoir justement toucher ces publics-là et élargir l'audience des propositions artistiques et culturelles qu'on fait sur le territoire. Mais encore une fois, voilà, j'insiste sur le fait que ce sont des lectures musicales, poétiques, itinérantes, ouvertes à tous. Et il n'y a pas besoin d'être vieux, handicapé, malade ou atteint d'une pathologie pour pouvoir y assister et profiter effectivement de ce voyage poétique et musical que nous allons proposer avec Jean-Pierre Tutin. Et je terminerai là-dessus, c'est tout l'enjeu de cette initiative qu'on porte tous ensemble, qui est de faire en sorte que on décloisonne aussi les publics. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de plus atroce. Enfin, je pense que mes collègues ici présentes seront d'accord avec moi sur le fait que c'est pas parce qu'il y a un mois bleu qui met une sorte de coup de projecteur sur les problématiques qui sont liées aux seniors que pour autant il faut ghettoiser les seniors et faire des spectacles pour les personnes âgées avec un public de personnes âgées adapté aux personnes âgées. Enfin, pour moi, ce serait la pire des choses, et que ce qui est essentiel, c'est que justement pour qu'il y ait du lien social qui se crée, de l'intergénérationnel, et que ce soit un moment de vie tout simplement. Le fait d'aller au spectacle, c'est un moment de vie sociale, au-delà du plaisir intellectuel, esthétique qu'on peut prendre le fait d'assister, ou émotionnel qu'on peut prendre à assister à une proposition, c'est un acte social. Et cet acte social, il doit être partagé par tous les citoyens et les membres, enfin les composantes de la société dans laquelle on vit. Donc ça, j'insiste vraiment, voilà, sur la dimension tout public. Nous, de notre côté, par exemple, on a fait un travail spécifique pour informer, puisqu'on est en période de vacances scolaires la semaine prochaine, tous les centres de loisirs qui sont à proximité de certains villages ou implantés dans certains villages, pour que ces centres de loisirs emmènent les enfants aussi qui sont, disons, la charge sur ces temps de rencontre.
Ouais. Alors c'est vrai que notre cœur de métier est vraiment l'accompagnement aux personnes âgées, handicapées ou fragilisées, mais nous réalisons également de l'accompagnement pour les familles, l'ado-famille est notamment en difficulté, et que donc l'information que l'on a transmise concerne également ces publics-là. Voilà. Bon, là il n'y aura pas forcément une problématique de transport sur les lieux des manifestations, mais toutes les personnes que l'on accompagne dans le cadre de l'aide à la famille ont également été informées des manifestations qui se déroulaient à proximité de chez eux.
Et pour aller aussi dans le sens de l'intergénérationnel, il y a des villages qui ont choisi de faire ces manifestations en week-end. Donc ce qui suppose qu'en week-end, voilà, ce sera réservé aussi aux aidants familiaux et aux familles, aux plus jeunes enfants. Voilà, tu parleras peut-être des manifestations en week-end, mais il y aura un autre public probablement pendant les week-ends. Et ce qui sera intéressant après, c'est de comparer quoi, ce qui s'est passé la semaine, où le public risque d'être plus spécifique la semaine, alors que le week-end, voilà, c'est sur le village, donc les gens vont se déplacer en famille.
Tout à fait.
Avant de passer au programme proprement dit de ces lectures poétiques et musicales, tu l'as dit, ce serait dommage que ce genre d'action n'ait lieu que dans le cadre du mois bleu, pour ne pas créer une tranche de temps spécialement dédiée aux seniors. Ma question serait la suivante, est-ce que ça vous est déjà arrivé de collaborer à tous les acteurs concernant ce type de public, voire avec les acteurs culturels, pour proposer ce genre d'événement, ou si ça s'est déjà fait, est-ce que ça va se faire encore dans l'avenir? Est-ce que vous avez des idées dans cette
oui, campagne? Oui, bien sûr, des idées, ça, on n'en manque pas. Après, face aux idées, c'est toujours la question des moyens qui est délicate à gérer pour le théâtre de Die comme pour nos partenaires, pour la simple et bonne raison que c'est pas forcément des actions de mutualisation qui vont coûter beaucoup d'argent, mais qui, en tant que telles, mais qui vont coûter du temps, parce que ce corps données. On a tous nos cahiers des charges respectifs à mettre en œuvre, et donc du coup c'est beaucoup d'anticipation qui est nécessaire pour ce faire. Néanmoins, des liens avec ces publics spécifiques en tant que théâtre de Die, on en a développé depuis 2012. On avait même fait un diagnostic, justement tout un travail de diagnostic pour identifier les besoins finalement se retrouve dans cette lecture musicale, c'est-à-dire que les besoins et les problématiques qui étaient identifiées en 2012, c'était problématiques de mobilité, comment on fait pour accéder à une proposition artistique quand on est effectivement à mobilité réduite, éloigné d'un lieu de diffusion culturelle, etc. Donc c'était une des premières choses qui était apparue. Et puis deuxièmement, c'était qu'il y avait la nécessité que ce soit des propositions artistiques qui soient accessibles en termes de contenu et de forme. Et puis le troisième point, c'est effectivement que ça peut soit organisé selon des, toujours dans cette logique d'accessibilité, selon des horaires qui soient adaptés aux réalités effectivement des personnes âgées, ou sortir en plein hiver, venir au théâtre de Die à 20h le soir, c'est compliqué, voilà, pour plein de raisons assez évidentes. Du coup, on a déjà mis en place depuis 2012 dans la programmation des cases, si je puis dire, qui sont plus adaptées, avec lesquelles on a initié déjà, enfin ça nous arrive très régulièrement sur certaines propositions, d'informer que ce soit les clubs, que ce soit le CLIC, que ce soit Vivre à domicile, via sa lettre d'information mensuelle ou bimensuel, je ne sais plus, de passer des informations. On va régulièrement chercher, en partenariat avec l'association Apache, des résidents à l'hôpital pour les emmener au théâtre de Die. Donc il y a déjà, voilà, plein de petites choses comme ça qui ont été mises en place. Là, ce qui est intéressant avec le programme de lecture musicale itinérante, c'est que d'une part, on a pu travailler vraiment en amont pour mobiliser tous nos réseaux ensemble, nos moyens ensemble, et être dans une logique de rayonnement territorial. Ça, je pense que c'est important de citer. On a dit qu'il y avait des choses qui passaient à dit, mais finalement, ce qui est le plus important, c'est qu'elles se passent ailleurs qu'à dit. Et en l'occurrence, en dehors de dit, il y a 8 autres villages qui sont concernés, et on rayonne vraiment sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des lectures qui vont avoir lieu à la moitié Chalancon, à Val-Drôme, à Luz-la-Croix-Haute, pour les plus éloignés, Saint-Nazaire-le-Désert. Dans des villages plus proches, il y a...
Luc, Châtillon,
Saint-Julien-en-Quin, etc. Donc Aix-en-Divois, je crois aussi. Oui. Voilà, et donc ça, c'est vraiment important pour nous en tant que scène régionale, puisque c'est notre statut depuis 2013, de pouvoir avoir cette action à l'échelle du territoire du Divois. Donc du coup, ça donne un programme assez chargé, puisque du 17 au 26, c'est un jour, une lecture, un village. Voilà, donc ça va être une vraie tournée. C'est un petit territoire, mais une vraie tournée quand même, à partir du samedi 17 octobre.
Et donc justement, alors...
Que va-t-il se passer?
En gros.
Bah, en gros, et un peu moins qu'en gros, en plus précis, le projet en lui-même artistique est né de la rencontre et de l'amitié que j'ai avec Jean-Pierre Tutin, donc, que je connais depuis maintenant une quinzaine d'années, qui est un seigneur très actif. Je sais pas s'il est vrai qu'on l'appelle comme ça, mais en tout cas, voilà, un monsieur qui a traversé la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment celui de la chanson française, qui a démarré sa carrière dans les cabarets de la rive gauche dans les années 50, où il était chanteur débutant, où ça fait partie de sa légende, mais c'est vrai, donc parce qu'il y a des documents qui en attestent, qu'il a eu comme pianiste accompagnateur, donc vraiment le pianiste qui accompagne dans le coin un certain Serge Gainsbourg. Bon, après il manifestement eu une carrière, mais voilà, qui avait Alex Métayer qui faisait de la clarinette pour lui, enfin voilà, qui a connu vraiment cette période historique dans l'histoire du music-hall français, et où il a vu débuter, il a côtoyé des artistes qui sont devenus des légendes de la chanson française, que ce soit Brel, Brassens, il était très ami avec Léo Ferré, Barbara, enfin etc. Donc il les a vus au moment où ces artistes-là étaient évidemment pas les grands chanteurs qu'ils sont devenus, et qui comme lui faisait la tournée des cabarets du Lapin Agile, en passant par enfin il serait mieux dire ça que moi, mais enfin tous ces cabarets légendaires de cette période-là.
Ne l'avais-tu pas fait venir aux Espiègleries première
fois? Tout à fait, je l'avais fait venir aux Espiègleries, donc il est déjà venu dans le Divois, il était déjà venu aussi dans certains villages, on avait fait ça en 2012, et en fait là il faisait vraiment une formule concert où il chantait un répertoire de chansons françaises qui souvent plaisait effectivement notamment au public de personnes âgées, parce que c'était des chansons qu'il connaissait, qu'il a une manière aussi très particulière, très, très humaine, très sensible, de faire passer son amour de la chanson et de le transmettre à son public. Il est en capacité d'établir comme ça une relation d'empathie qui est assez, assez rare. Et là, en fait, on est sur une proposition un peu différente, je dirais pas plus exigeante, parce que je pense personnellement que la poésie reste quelque chose qui est tout à fait grand public, et elle doit l'être, surtout quand elle est oralisée, ce qui sera le cas au travers de ces lectures. Mais donc du coup, on va être sur un choix de chansons et de poèmes qui vont se faire écho, pour la simple et bonne raison que beaucoup de poésie ont été mises en chanson par des musiciens et des chanteurs. Donc l'idée, c'est de dire un poème parlé, enfin on voit parler, et puis un poème du même auteur, mais mis en musique, mis en chanson, que va interpréter Jean-Pierre. Et donc on va être dans un système d'écho comme ça, entre deux formes, non pas du même poème, mais deux formes d'écriture du même poète, l'une mise en musique et l'autre dite. Voilà. Et donc au travers de ça, ça nous permet de balayer quasiment 4 siècles de poésie, puisqu'on va commencer avec... Pauvre Rudebeuf, voilà, donc on est au Moyen-Âge là, et puis on va aller jusqu'à des poètes plus contemporains comme Aragon par exemple, pour nous rapprocher en tout cas de cette deuxième moitié du XXe siècle. Donc voilà, c'est vraiment un voyage poétique et musical qui va se faire en chanson, et qui du coup, on est aussi d'une certaine manière dans l'intergénérationnel, parce que Jean-Pierre a quasiment l'âge de mon père, enfin même à l'âge de mon père. Et donc du coup, voilà, il y a une espèce de relation, enfin de duo qu'on a construit comme ça aussi sur ce dialogue qu'on a ensemble tous les deux, qui est à la fois un dialogue amical, affectueux, et en même temps générationnel, où on se passe des choses par la poésie et par la musique, et on espère que ces choses-là, on va réussir aussi à les faire passer auprès du public qui va être forcément très nombreux quand je vois toute cette énergie déployée pour faire venir du monde à ces lectures, et où on va être à guichet fermé pendant une semaine.
Il y a quelque chose qui, je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, tu offres un contrepoint à Monsieur Hutin, en fait.
Tout à fait, oui, c'est vraiment un duo, c'est pas Jean-Pierre Tutin en concert, c'est tous les deux ensemble qui proposons cette forme qu'on a intitulée Les mots s'en mêlent, en jouant sur voilà, la littération, où effectivement les mots s'en mêlent ensemble et ils se mêlent de la musique, inversement. Voilà, donc c'est vraiment voilà, une forme de duettiste. Hein, voilà. Alors Jean-Pierre a une aura que je n'ai pas dans le Diwa, puisqu'il a déjà œuvré et que donc il commence à être bien connu. Donc c'est lui la tête d'affiche, mais néanmoins on sera tous les deux. Et ça aussi, c'est la liberté que permet le poste que j'ai au Théâtre de Nîmes, qui est que j'ai un passé et aussi un présent même de comédien que je déploie discrètement dans le Diwa, parce que c'est pas du tout à faire ça de manière omniprésente dans le théâtre, mais là c'est quand c'est des projets qui m'intéressent, qui me touchent et où j'ai envie, moi en tant que citoyen et acteur culturel du territoire, d'être au contact de la population, du public, et pas seulement derrière mon bureau à faire des projets, mais à être dans cette relation sensible avec le public, je vois pas pourquoi je m'interdirais ce plaisir-là, parce que c'est d'abord une affaire de plaisir.
Vous avez parlé de collaboration entre différents acteurs. Est-ce que vous avez été aidé par d'autres structures, le département ou je ne sais, qui a aussi œuvré à faire en sorte que ça devienne possible ?
Le département, de fait, puisque le CLIC est avant tout un service du département. Donc le département, déjà dans l'énergie et la valorisation de mon temps de travail, a rassemblé les acteurs locaux, c'est ma fonction, pour que ce genre d'initiative puisse voir le jour, quoi. Donc déjà le département à travers ça, et puis ce qui nous concerne le CLIC, c'est vrai qu'on a collaboré et cofinancé en partie modeste cette représentation, quoi. Mais ça a surtout été pour le département le temps de coordination.
Il n'y a pas eu d'autres partenaires, non ?
Sur les partenaires, il y a des partenaires logistiques et puis des partenaires financiers. Logistique, on peut dire qu'effectivement, vivre à domicile en est un pour faire venir effectivement du public. Mais également, comme l'a dit Martine tout à l'heure, les communes elles-mêmes qui nous accueillent et des associations, le club d'aînés ou d'âge d'or, enfin ils ont tous des noms un peu différents dans chacun des villages, sont tout à fait impliqués, les centres de loisirs comme je disais aussi également. Les communes, elles le sont pour certaines à double titre, c'est-à-dire à la fois sur un plan logistique puisqu'elles mettent gratuitement un lieu à disposition pour nous accueillir et accueillir le public, donc c'est en général la salle des fêtes des villages concernés. Certaines participe financièrement sur des petits montants, mais néanmoins à l'échelle des communes c'est pas tout à fait négligeable, sur des montants qui vont de 50 à 100 euros. Alors toutes n'ont pas pu le faire ou pour différentes raisons, mais enfin il y en a quand même la moitié voilà qui amène un cofinancement. Et puisqu'on parle de finances, eh bien effectivement le département de manière directe, indépendamment de la valorisation du temps de coordination et de travail de Martine, a amené une subvention, on peut dire ça comme ça. Et puis nous avons sollicité la région Rhône-Alpes via le CDDRA, donc qui est le contrat de développement durable Rhône-Alpes, voilà, qui soutient également la manifestation. Mais voilà, il y a un mais. Je remercie évidemment la région de son soutien, mais enfin, je dois te dire que ça n'a pas été simple de justifier cette action et d'obtenir un financement qui est d'ailleurs inférieur de moitié à ce que nous avions demandé. Et ça n'a pas été simple pour des raisons qui me restent assez obscures, je dois dire. Et c'est pour ça que je profite de cette antenne pour le signaler, parce que un des arguments pour dire que la région n'avait pas à financer une action de ce type, c'était de dire que c'était une action explicitement destinée aux personnes âgées et que ça relevait des compétences du département et que par conséquent, c'était au département de financer. À partir du moment où on est dans l'intergénérationnel et que l'intergénérationnel fait partie des objectifs de la fiche culture du CDRA, je vois pas bien comment on peut faire de l'intergénérationnel sans impliquer des gens de générations différentes, donc des personnes âgées. Là, il y a un truc de cohérence là qui m'a un peu échappé. Du coup, sur une action qui pourrait sembler simple, ça ne l'a pas été du tout de faire valoir la pertinence de cette action qui en plus rayonne sur l'ensemble du territoire, participe à la structuration culturelle entre différents acteurs, voilà, autour d'une proposition qui émane du théâtre. Et comme c'est pas la première fois que le Théâtre de Die rencontre quelques difficultés à faire entendre la pertinence de ses projets auprès de cette instance, voilà, on tenait à le signaler que ça mérite en tout cas de la part de la communauté de communes qui gère ce programme pour le compte de la région, de se reposer un certain nombre de questions sur ce qu'elle souhaite en termes de politique culturelle sur ce territoire, dans la mesure où, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne nous avait pas accordé la totalité de l'argent que nous demandions. On pourrait nous rétorquer fort justement, si c'était le cas, que, bah oui, mais il faut pouvoir avoir des moyens pour tout le monde et que donc, par conséquent, voilà, on limite les enveloppes dédiées à chacun des projets. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur cette enveloppe culture, donc qu'il y avait sur 6 ans, donc dans le cadre du programme du CDRA, 193 000 euros pour le fonctionnement et l'investissement, ce qui en soi est très peu. Si on ramène ça à chaque année, en gros, ça fait 30 000 euros par an pour tout accompagner le développement culturel du territoire, c'est peu. Voilà. Sauf que, là je le dis, c'est la critique, je le dis ouvertement, je le dis sur cette antenne comme je l'ai dit aux élus concernés, on s'est retrouvé à mi-parcours du programme, c'est-à-dire au bout de 3 ans d'exercice, avec un reliquat sur cette enveloppe de 193 000 de 124 000 euros. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, il y a à peine 70 000 euros qui ont été engagés sur des projets culturels. Ce qui, de mon point de vue, est une absurdité totale. Je ne comprends pas que on soit dans une telle aberration, alors que les financements culturels ne cessent de diminuer partout. Là, on a une enveloppe qui est dédiée à la culture et elle est sous-utilisée à tel point que, comme l'objectif de ces programmes régionaux, c'est quand même issu à leur terme d'avoir dépensé tout l'argent qui était contenu dans les enveloppes. Et du coup, depuis le mois de juillet, il y a une clause de revoyure, c'est-à-dire qui redéploie les moyens, et qu'on a amputé cette enveloppe culture qui était à 124 000 de plus de 50 000 euros. Et sur un projet qui est explicitement culturel, social, qui rayonne sur le territoire, on se trouve en butte à une opposition de principe pour des motifs encore, une fois que je le répète, qui me restent obscurs parce que je n'ai pas réussi à obtenir personnellement des explications claires et cohérentes de la part des élus concernés. Et que parler de compétences quand il s'agit de projets qui croisent culture et social, et que donc on est dans du développement culturel, parce que sinon je sais pas de quoi on parle, si le développement culturel c'est pas amener effectivement une offre culturelle auprès de publics qui en sont éloignés, qu'ils soient âgés ou pas âgés, on n'est pas dans un problème de compétences. On l'est d'autant moins, parce que c'est un des arguments qui nous a été opposé, que soi-disant, depuis la loi récente sur la répartition des clauses de compétences entre les collectivités territoriales, le social, effectivement, revient au département et non pas aux régions. Sauf que là, à partir du moment où on parle d'un projet d'action culturelle, puisque c'est bien de ça dont il est question avec ces lectures musicales itinérantes, on est dans le domaine culturel, hors la culture, comme le tourisme. D'ailleurs, sont toujours, que je sache, dans les clauses de compétences générales et que donc, par conséquent, la région peut tout à fait financer un projet de ce type si elle le souhaite. Sauf que là, manifestement, pour des raisons, encore une fois, que j'ignore, elle ne le souhaitait pas. Voilà, donc je tenais, c'est un peu long et technique sur ce sujet, mais je trouve que y a une vraie réflexion à mener de fond sur l'ambition de ce territoire au niveau de la politique culturelle qu'il doit mener. Je sais que c'est en cours, mais ça fait 7 ans moi, que je suis dans le territoire, ça fait 7 ans que j'essaie de secouer le cocotier pour qu'il y ait une prise en compte de ces réalités-là, que ce soit à l'intérieur du CDRA, mais auprès des élus de la communauté de communes. Et je dois dire, puisque c'est souvent un argument qui nous est aussi opposé par la communauté de communes sur sa difficulté à prendre en compte le développement culturel, puisqu'elle n'a pas la compétence culturelle au jour d'aujourd'hui, la communauté de communes. Eh bien, les communes qui ont été les premières à apporter un cofinancement à ces actions sont les communes les plus éloignées de Die, c'est-à-dire Luz-la-Croix-Haute, La Motte-Chalancon et Val-Drôme, pour les citer explicitement. Et c'est les premières qui ont réagi et qui ont dit oui, nous on a envie que cette action vienne chez nous, et donc on va donner 50 ou 100 euros. Et ce qui veut dire que face à l'argument qui est de dire oui, les communes les plus éloignées, peut-être de Die, la culture, tout ça, elle ne voit pas pourquoi elle irait financer ça, c'est pas si tant vrai que ça. La preuve, c'est que là, en l'occurrence, si on leur fait des propositions et qu'on va jusque chez elles, eh bien, elles sont les premières à réagir et à répondre présentes. Et je m'en réjouis. Voilà.
Après cette mise au point, sans doute importante, j'en conviens, on peut rappeler quand même que grâce au financement que vous avez eu, cette opération sera libre de droit. Enfin, les gens ne n'auront pas à payer.
Libre et gratuite, voilà, tout à fait. Et que je tiens aussi à préciser, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, que moi, j'ai fait ça dans le cadre de mon temps de travail. Donc, je suis, par exemple, ma participation artistique au projet, je la fais sur mon temps de travail. Je ne suis pas, j'ai pas touché une prime ou quoi que ce soit. Voilà, ça, je le fais non pas bénévolement, puisque c'est sur mon temps de travail, mais je le fais quand même indépendamment de, enfin, que je le fasse ou que je le fasse pas, je serai payé pareil à la fin du mois. C'est ça que je veux dire. Et que je le fais parce que j'estime que ça fait sens pour moi et pour l'action d'être présent. Et que dans les cofinanceurs, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le Théâtre de Die, sur ses fonds propres, cofinance, que ce soit sur ma participation, mais aussi pour le temps de coordination qui est inhérent à l'organisation d'un projet de ce type.
Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, Jean, Damoiseau et Damoiselle?
Ben moi, je crois qu'on pourrait mettre un peu de poésie dans tout ça.
Voilà.
Bon, c'est difficile de parler de poésie et de chansons sans évoquer Jacques Prévert. Alors, Jacques Prévert. Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre, s'il le faut, pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches, pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil, et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Jacques Prévert, donc.
Jacques Prévert.
Eh bien, merci d'être passé à RDWA pour annoncer ces lectures poétiques et musicales qui auront lieu, je le rappelle, la première représentation le samedi 17 octobre au Théâtre de Die à 16h30 avec une entrée libre. Et puis sinon, on peut rappeler que ça aura lieu aussi dans un certain nombre d'autres villages.
D'autres villages, voilà, tout à fait.
Et je mettrai sur la page de l'émission les horaires ad hoc.
Précis, voilà. Mais donc du coup, on sera le 18 octobre à Saint-Nazaire, le 19 octobre à Châtillon, le 20 à Val-Drôme, le 21 à Aix-en-Divois, enfin à Pont-de-Car, le 22 à Luc-en-Divois, le 23 Lacroix à Luz-Lacroix-Haute, le 24 à Saint-Julien-en-Quin, le 25 à la Motte-Chalancon, et le 26, nous reviendrons à Die pour une dernière représentation au centre hospitalier de Die, donc in situ dans l'hôpital.
Une dernière chose, Martine, pour informer tous les seniors qui pourraient être intéressés par la suite des opérations du mois bleu, on peut trouver facilement des informations sur un site.
Oui, sur le site du Conseil Général, vous avez les programmes qui sont en ligne. Sinon, vous pouvez encore en trouver donc au CLIC, place des Cordeliers, donc dans les locaux du CLIC, donc qui à l'heure actuelle a déménagé, était à la communauté de communes et maintenant est dans les locaux département. Place des Cordeliers.
Donc apparemment c'est ladrome.fr et je mettrai sur la page de l'émission un lien direct pour qui vous emmènera vers cette page précise. Messieurs, dames, merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
Interview.